Je vous propose de lire ce matin le premier chapitre du livre des commencements, le livre de la Genèse, ce portail magnifique qui donne accès à toute la parole de Dieu, à la révélation écrite. On a donné ce nom à ce premier livre de la Bible parce qu'il raconte justement le commencement de toute chose, le commencement du monde, le commencement de la vie sur terre, le commencement du péché aussi, le commencement du jugement divin, le commencement du peuple d'Israël. Un homme sage disait, la Genèse nous raconte le commencement de tout, sauf de Dieu. Nous trouvons dans ce livre le commencement de la révélation de Dieu, révélation qui s'étend du livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et le premier commencement qui nous est rapporté ici, c'est le commencement du monde. Voici ce qu'il dit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir. Il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en ce lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portante de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela a été très bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le sixième jour. » Et après, la suite du récit nous dit que le septième jour, le Seigneur se reposa de toute son œuvre. Cette question des commencements, du commencement des choses, du début de la vie sur la terre, cette question liée à nos origines nous intéresse tous. Depuis toujours, les hommes s'interrogent sur la formation de l'univers, sur l'origine de ce monde. Chaque civilisation, depuis l'aube des temps, s'est intéressée à cette question des origines. Et chacune de ces civilisations a ses légendes et ses mythes cosmogoniques, parfois même très bizarres, comme vous le savez. Depuis toujours aussi, des physiciens, des biologistes, des philosophes, des théologiens, etc., etc., essayent de nous expliquer l'apparition de la vie sur Terre. Les scientifiques sondent le ciel et la Terre pour essayer de trouver des réponses aux questions qui se posent. Et il faut dire que nous sommes à l'affût de nouvelles informations, n'est-ce pas, de nouvelles découvertes scientifiques. Les récentes images magnifiques envoyées de Mars par ce fameux satellite que les scientifiques ont réussi à poser sur cette planète, et d'une manière générale, tout ce qui concerne l'univers nous fascine. Nous voulons savoir d'où venons-nous, où allons-nous et quel est l'objectif de notre vie? Quel est le sens de notre vie sur la Terre? Nous voulons savoir s'il y a quelqu'un là-haut qui commande toutes choses. Ces questions sont très importantes. Alfred Quinn, qui a écrit un livre à propos de ces questions, dit ceci: ce que l'on pense des origines a d'importantes implications. Cela explique qui est l'homme, quelle est sa place dans l'univers et ses relations avec lui. Cela affecte aussi le sens de la vie. Or, on sait, frères et sœurs, que la science ne peut pas tout. La science ne peut pas tout expliquer. Elle nous apprend beaucoup de choses, et heureusement qu'il y a des gens qui cherchent et qui trouvent certaines choses, mais elle ne peut pas tout expliquer. Tout ce qui va au-delà du monde matériel observable, tout ce qui concerne la métaphysique et notamment les choses qui concernent la spiritualité, n'est-ce pas, le monde spirituel, ces choses-là dépassent la science. On sait aussi que notre société française est imprégnée d'un esprit, en tout cas d'une forte dose, n'est-ce pas, de matérialisme et d'athéisme qui exclut donc toute référence à un Dieu créateur. On peut donc affirmer que ceux qui, comme nous, reconnaissent l'autorité de la parole de Dieu ont un avantage, n'est-ce pas, sur ceux qui ne la reconnaissent pas. Et notre texte ce matin, dont la rédaction est attribuée à Moïse qui a donc rédigé ce récit de la création pour le peuple juif qui venait de quitter le pays d'Égypte, ce texte, disais-je, a des choses très intéressantes à nous apprendre. Bon, on peut se demander, mais comment Moïse a pu connaître les événements du début? Il n'était pas là, il n'y avait personne pour voir ce qui s'est passé. Comment a-t-il su toutes ces choses qu'il nous rapporte ici dans ce premier chapitre de la Genèse? On ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que les apôtres, et notamment l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, affirment que la parole de Dieu est inspirée. La parole de Dieu est soufflée par l'Esprit de Dieu. Dieu a choisi des hommes comme Moïse, comme les prophètes et comme d'autres, n'est-ce pas, pour nous transmettre ce qui leur a permis de révéler ce qu'ils voulaient révéler à l'humanité. Nous lisons dans le livre d'Exode que l'Éternel parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Et Jésus disait à ses auditeurs, je cite, « Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croiriez-vous à mes paroles ?» Les écrits de Moïse avaient donc une grande importance pour notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a confirmé la nature inspirée de ses écrits. Selon lui, les écrits de Moïse, le Pentateuque, sont la parole de Dieu. Et je disais donc que ce passage a des choses très intéressantes et très importantes à nous apprendre. Ceci dit, je suis convaincu qu'il y a des difficultés, même dans l'interprétation de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et je ne veux pas évacuer non plus ces difficultés-là. Tout étudiant sérieux de la parole de Dieu doit faire face à ces questions difficiles, s'interroger par exemple sur le style littéraire que Moïse utilise dans ce passage. Est-ce de la poésie? Est-ce un langage symbolique? Faut-il le comprendre de manière littérale? Tous les versets de manière littérale? Il semble bien y avoir un peu de symbolisme dans ce passage. Mais ce n'est pas toujours si simple de séparer ce qui est de l'ordre du symbolique de ce qui est à comprendre de manière littérale et de façon, je dirais, chronologiquement historique. Et puis, comment expliquer cette contradiction apparente, la création de la lumière le premier jour, alors que le soleil n'a été créé que le quatrième jour? On peut se poser la question légitime, d'où vient cette lumière? Et donc, le mot « jour », que veut-il dire dans ce passage? S'agit-il d'un jour de 24 heures, un jour, disons, de l'homme, un jour humain, ou d'un jour de Dieu, pour qui un jour est comme mille ans et mille ans comme un jour, nous dit la parole. Nos jours à nous sont déterminés, on le sait bien, par le soleil. Or, le soleil n'est apparu que le quatrième jour. Il n'était pas là les trois premiers jours. Autre difficulté, comment accorder ce récit biblique avec ce que nous apprend la science et notamment les données de la géologie. Vous voyez, toutes ces questions et d'autres encore sont à l'origine donc des diverses interprétations qu'on entend, qu'on trouve un peu partout à propos de ce passage. Et ces interprétations divergent même dans nos milieux évangéliques très attachés à la Bible, à la parole de Dieu. On pose une question à la même question à deux théologiens évangéliques et nous aurons deux réponses différentes. L'apôtre Paul dit que lorsque le Seigneur sera revenu, nous connaîtrons toutes choses parfaitement. Donc c'est normal qu'en attendant le retour du Seigneur, on s'interroge sur certaines choses. Et en attendant, même si les réponses à ces questions controversées varient, je crois que nous, les chrétiens, d'abord, nous devons respecter l'interprétation de nos frères et sœurs en Christ, même si celle-ci est différente, n'est-ce pas? Mais je pense que nous pouvons nous mettre d'accord, au moins, sur certains points essentiels de ce texte. Alors, quels sont ces points essentiels? Tout d'abord, ce premier verset qui nous dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Je pense que là, nous pouvons tous nous mettre d'accord. Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu est le créateur de toutes choses. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Quand ça? Au commencement. Au commencement. La Bible n'en dit pas plus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit uniquement ce que nous devons savoir ou ce que nous pouvons savoir. Parce qu'il y a des choses sans doute que nous ne pouvons pas encore savoir. Il nous est dit dans Deutéronome 29 que les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous. Donc il y a des choses cachées qui appartiennent au Seigneur. Il n'a pas voulu nous révéler ces choses-là. Et on peut se poser la question, et avant le commencement, qu'est-ce qu'il y avait avant le commencement? il y avait Dieu au commencement, Dieu. Il y avait Dieu, l'Éternel, dont l'Esprit, dit le texte, se mouvait au-dessus des eaux. L'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Colossiens ceci, « Dieu est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Dieu est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Alors ces trois petits mots, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », résument tout ce qui est essentiel de savoir sur cette question des commencements. Dans le livre d'Alfred Quinn, il y a cette petite histoire. Un petit garçon était tout fier de répéter à sa tante ce qu'il avait appris à l'école sur le début du monde. Et il disait, mais non, au commencement, il y avait une petite boule, pas plus grosse qu'une tête d'épingle, qui contenait tout ce qu'il y a dans l'univers actuel. Puis la boule a explosé. C'était le Big Bang. Et tout est sorti de là. Alors sa tante lui a demandé, mais et d'où sont venues cette petite boule et cette étincelle? Ah, je ne sais pas. Alors tu poseras la question à ton professeur demain matin. Le jour suivant, alors, as-tu demandé à ton prof? Oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a répondu, c'est ce que certains appellent Dieu. C'est ce que certains appellent Dieu. La Bible dit Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est Dieu donc qui est le sujet et le héros de ce récit. Et non seulement de ce récit, mais de toute la Bible et de toute l'histoire, de l'histoire tout entière. Ce Dieu est le Dieu éternel, nous dit la Bible. Il est là même avant le début du temps. Il est le Dieu qui est, qui était et qui sera éternellement. La Bible ne donne pas de preuve à proprement parler de l'existence de Dieu. Car pour les auteurs bibliques, l'existence de Dieu est évidente. Elle est évidente. Il suffit, disent-ils, de regarder la nature. Les psalmistes le disent, mais aussi l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, dans le premier chapitre, il dit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde » quand on les considère dans ses ouvrages. L'univers contient donc des indices suffisants qui nous montrent qu'il y a un créateur, qu'il y a une intelligence derrière tout ce qu'on voit. Tellement suffisant que le psalmiste appelle d'insensé celui qui nie l'existence de Dieu. Pour la parole de Dieu, la Bible, il n'y a pas de doute. Elle affirme tout simplement que Dieu était là, que Dieu est là au début de la création. Et elle nous invite, chacun de nous, chaque être humain, à découvrir Dieu, à s'approcher de lui, à faire sa connaissance. Ce petit verset, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, est en effet un grand verset de la Bible, n'est-ce pas? Un grand verset. Verset qui a un sens très riche, un portail, comme je disais tout à l'heure, magnifique, avec lequel s'ouvre la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'expression « le ciel et la terre » est une expression qui montre que Dieu a tout créé, c'est-à-dire de A à Z. Il a tout créé à partir de rien, il a tout créé. Il n'y a rien qui existe qui n'a pas été créé par Dieu. Et étant donné que c'est lui qui a tout créé, cela veut dire qu'il y a deux réalités dans l'univers. Il y a Dieu, le Créateur, et il y a l'univers. Et il ne faut pas confondre les deux comme font certains. D'un côté, il y a Dieu qui a créé, qui est au-dessus de sa création, et de l'autre, il y a sa création. Il y a donc une séparation fondamentale entre les deux. La Bible dit que mélanger les deux, c'est de l'idolâtrie, c'est, comme on dit, du panthéisme, n'est-ce pas? C'est l'adoration de ce qui est créé par Dieu au lieu de l'adoration de Dieu lui-même. La planète, notre planète, n'est pas Dieu. La planète n'est pas Dieu. Dieu est au-dessus de la planète. Il est le créateur de toutes choses. Tout ce qui existe doit son existence à Dieu. Tout dépend de lui. C'est lui qui a fixé les lois qui régissent l'univers. C'est lui qui donne le souffle de vie à tous les êtres. Tout et tous trouvent son origine en lui. Un autre élément intéressant de ce passage, c'est que Dieu a créé le monde par étapes, en six fois, les fameux six jours, n'est-ce pas, de notre texte. Cela veut dire que Dieu l'a créé de manière intentionnelle et de manière ordonnée. Le texte nous le montre dans ce schéma qui se répète. Dieu dit qu'il y ait ceci ou cela, et il fut ainsi. Et Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ainsi de suite pour chaque étape de la création. Cela montre que notre monde n'est pas le fruit du hasard, n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas là par accident, mais c'est Dieu qui a décidé de façonner ce monde comme il l'a fait. Tout a été mis en place par sa volonté et non pas de manière aléatoire. Les trois premiers jours, il a créé, on pourrait dire, la structure, le cadre approprié pour la vie, et notamment pour la vie humaine. Et ensuite, les jours suivants, il a rempli les espaces, il a mis des créatures selon leur espèce, et tout cela de manière intentionnelle. Un autre élément intéressant aussi, c'est qu'il a créé le monde par sa parole. Par sa parole, nous, quand on crée quelque chose, et on crée toujours à partir de quelque chose, n'est-ce pas, alors que Dieu a créé à partir de rien, nous, on utilise nos mains, n'est-ce pas, pour faire des choses. Le Seigneur a utilisé sa parole. Par sa parole, il a créé ce qui existe. Lors de la première étape, Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et la lumière fut. Lors du deuxième jour, qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et cela fut ainsi. Et ainsi de suite pour tout le reste. Ce Dieu unique, créateur de toutes choses, a simplement prononcé des paroles, et la création s'est faite. Lorsque Dieu dit, la chose arrive. Sa parole est puissante, sa parole est souveraine, sa parole est créatrice. Un autre élément, c'est que Dieu a créé le monde, dit le texte, bon. Le monde était bon. Alors on peut se demander, mais si le monde était bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui on voit des mauvaises choses sévir un peu partout dans le monde? La parole de Dieu va nous dire un peu dans les chapitres qui suivent, n'est-ce pas, qu'il y a eu un événement terrible qui s'est passé, mais ce sera le sujet d'une autre prédication. Au départ, Dieu a créé le monde bon. Tout ce qu'il a fait était bon. Malheureusement, l'homme, avec sa désobéissance, a entraîné toute sa descendance, toute l'humanité vers le mal. Pour terminer, quelque chose qui nous concerne encore de plus près. Vous l'avez sans doute remarqué, Dieu a conclu son travail créationnel le sixième jour par la création de l'être humain. Après avoir créé le monde végétal, le monde minéral, le monde animal, il a créé des êtres magnifiques comme nous, n'est-ce pas, à son image et à sa ressemblance. Et on voit que c'est avec la création de l'être humain qu'il termine son œuvre créationnelle. L'homme est donc le couronnement de sa création. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Dieu a d'abord créé les conditions nécessaires pour que la vie humaine soit vécue dans de bonnes conditions. Au verset 26, il dit, donc après avoir créé ces conditions, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Nous avons été créés le même jour que les animaux. Il y a donc une certaine continuité, n'est-ce pas, entre le monde animal et l'homme, l'être humain. Mais avec une différence de taille, c'est que le texte dit que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ou comme disait le psalmiste, l'homme a été fait de peu inférieur à Dieu et Dieu l'a couronné de gloire et d'honneur. L'homme est donc le sommet de la création. Il a une position beaucoup plus élevée que celle des animaux. Nous n'avons pas le temps ce matin de voir tous les détails de ce passage qui est très riche, et sans doute que les autres prédicateurs vont plus tard revenir sur ce texte. Mais nous pouvons au moins rappeler que ce que cela veut dire, créer à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cela veut dire que sur certains aspects, nous sommes comme Dieu. Nous sommes comme Dieu. Nous avons conscience de notre existence. Nous pouvons penser, raisonner, nous pouvons parler, nous pouvons choisir, nous pouvons aimer et nous pouvons faire beaucoup d'autres choses. Et c'est d'ailleurs pour cela que Dieu nous a confié la gestion de cette planète, n'est-ce pas, la Terre, la gestion de sa création, parce qu'il nous a dotés d'intelligence. Nous sommes capables de le faire. Nous sommes les représentants de Dieu sur cette terre. Nous avons une très grande valeur à ses yeux. Dieu nous a couronnés de gloire et d'honneur. C'est vrai que je passe très vite sur un texte tellement riche. Mais pour terminer, je dirais que ce passage nous dit au moins trois choses essentielles que nous devons retenir. Il nous dit qui est Dieu. Dieu est le créateur de l'univers, c'est lui qui est derrière tout ce qui existe. Il est au-dessus de sa création, il ne se confond pas avec sa création. Ce passage nous dit aussi qui est l'homme, qui sommes-nous? L'homme est un être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cela veut dire aussi que, avec toute l'intelligence que nous puissions avoir, nous appartenons à Dieu. Nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes, nous lui appartenons et nous sommes redevables envers notre Créateur. Nous lui devons notre existence et donc aussi notre obéissance, notre reconnaissance et notre adoration. D'ailleurs, ce chapitre se termine, comme je disais tout à l'heure, par le repos de Dieu le septième jour. Jour qui a été consacré ensuite au repos du peuple de Dieu et à l'adoration. En glorifiant Dieu et en nous réjouissant en lui, nous sommes pleinement humains. Nous accomplissons pleinement le don de notre existence. Enfin, ce passage nous dit une troisième chose. Quelle est notre place au sein de la création? Quelle est la place de l'être humain au sein de la création? L'homme est le représentant de Dieu sur cette terre et nous devrions prendre conscience de cela. Nous sommes les représentants de Dieu sur cette terre. Un représentant qui est là pour gérer la création divine, mais aussi pour honorer et glorifier le Créateur. Voilà pourquoi l'apôtre Jean disait dans l'Apocalypse ceci: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Que le Seigneur bénisse sa parole.